Alors, bonjour tout le monde. Notre premier orateur de ce matin est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être introduit. Olivier Boulnois est un des historiens de la philosophie le plus bien connu dans le monde francophone, dans le monde entier. Il est maintenant directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il a commencé en étant spécialiste d'un SCO, mais maintenant il travaille sur tout le champ de la philosophie médiévale latine. Je ne cite que deux de ses monographies assez récente, Au-delà de l'image, publié en 2008, et puis en 2013, Métaphysique rebelle, genèse et structure d'une science au Moyen Âge. Et aujourd'hui, il pose la question, d'où vient le compatibilisme?
Merci, John. Deux petites remarques préliminaires avant de commencer cet exposé. Le premier, c'est, je pensais dans le métro, au titre « Colloque de clôture ». Et il y a un très beau vers de Paul Claudel, je crois que c'est dans « Connaissance de l'Est », qui parle des portes chinoises et qui dit « Cette porte ferme moins que n'ouvre le ventail qui l'enclôt ». Voilà, pour un colloque de clôture. C'est une exergue qu'on pourrait choisir. Enfin, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas retrouvé ça sur Google dans le métro, pour vous dire les choses. Deuxième remarque, j'essaie toujours, lorsque je voyage, de prendre les coutumes des indigènes. C'est pourquoi je ferai un PowerPoint. Mais c'est mon premier PowerPoint, donc je demande toute votre indulgence. Lorsque j'ai été invité à dire d'où venait et où allait la philosophie médiévale en 25 minutes, j'ai ressenti un léger vertige, car c'est évidemment une gageure. Mais permettez-moi de commencer, comme Marc Aurèle au début des Pensées, par un exercice de gratitude. Donc là, vous avez le plan de mon exposé. Un exercice de gratitude. Parmi ceux à qui je dois ma formation philosophique, je voudrais surtout remercier Alain pour son amitié, pour m'avoir enseigné pendant toutes les années où j'ai suivi son séminaire et où je l'ai lu. Premièrement, que les problèmes philosophiques ne se posent pas d'eux-mêmes, mais sont des artefacts historiques. Deuxièmement, qu'on peut les analyser en matrice de questions appelées complexes de questions et de réponses. Troisièmement, qu'on doit en suivre la trace, les traquer ou les tracer ou les retracer, sans limite de période, de discipline ni de langue. Mais coutume de colocataire ou de locataire laissant à désirer, je ne me sentais pas capable de faire un état des lieux complet de tout ce qui a changé dans l'histoire de la métaphysique médiévale. Il m'a donc semblé plus court de présenter ce que les biologistes appellent une coupe sagittale dans certains travaux en cours sur la généalogie de la liberté. Je proposerai donc quelques remarques sur le compatibilisme. Et j'examinerai en quoi la méthode historique dont Alain nous a donné l'exemple permet, je crois, de renouveler l'étude de ce concept. Qu'entend-on par compatibilisme? J'entends par là la théorie selon laquelle le libre arbitre des agents serait compatible avec le déterminisme, c'est-à-dire, pour faire court, avec la détermination causale par un état de fait du monde antérieur, par un état du monde antérieur. Pourquoi appeler cette méthode généalogique? Alain de Libera nomme la sienne archéologie, mais le terme de généalogie ne prétend absolument pas s'y opposer, car il est l'autre versant de la même méthode. D'ailleurs, chez Michel Foucault, les deux termes coexistent. Mais originellement, la généalogie est une enquête sur la noblesse Et chez Nietzsche, elle est encore destinée à vérifier la valeur de certains énoncés. L'archéologie pratiquée par Alain met en évidence des strates historiques. La généalogie propose de déchiffrer dans cette histoire une évaluation de certaines thèses fondamentales. Concrètement, c'est en voyant d'où vient le compatibilisme qu'on pourra peut-être dire où il va. Pour gagner du temps, je partirai de la fin. Et c'est seulement lorsque je serai arrivé au commencement que je réfléchirai sur le lieu où va le compatibilisme. Évidemment, cela me poussera à négliger beaucoup de bifurcations. L'un des principaux tenants du compatibilisme au XXe siècle est Harry Frankfurt. Dans son article « Possibilités alternatives et responsabilité morale », il entend démontrer que nous sommes moralement responsables, même quand nous n'avons pas la possibilité d'agir autrement. Il s'agit pour lui de parer l'argument du libertarien, selon lequel nous ne sommes responsables d'une action que si nous aurions pu, que si nous aurions pu agir autrement. If we could have done otherwise. Dans ce but, Frankfurt imagine un manipulateur qu'il appelle Black et qui veut que l'agent Jones accomplisse une certaine action. Vous avez le texte là, je ne vais pas avoir le temps de le lire. Par une expérience de pensée, Frankfurt suppose que Black a le mystérieux pouvoir de connaître la décision de Jones juste avant qu'il la prenne et aussi le pouvoir de la bloquer. Il a donc une forme de prescience et une immense puissance. De ce fait, Frankfurt peut mettre en place le dispositif suivant que j'intitule « Le corridor des possibles ». Premièrement, Black veut X. Si Jones décide ce que veut Black, Black ne fait rien. Si Jones est sur le point de décider autre chose, Black intervient et bloque le vouloir. Donc, le manipulateur Black veut que l'agent Jones accomplisse une certaine action. Si Jones veut cette même action, Black n'intervient pas. Et à ce moment-là, évidemment, Jones accomplit l'action en question. Mais si Jones décide de faire une autre action, Black intervient et paralyse le vouloir. Dès lors, Jones ne peut que décider l'action voulue par lui et l'exécuter. Par conséquent, l'action voulue par Black, le manipulateur, arrivera toujours. Jones n'est pourtant pas contraint. Il n'est pas contraint dans son corps. Simplement, sa volonté veut toujours ce que Black veut qu'il veuille. Ce qui intéresse Frankfurt, c'est que nous sommes dans une situation que je propose d'appeler le corridor des possibles. Jones s'avance dans ce qu'il croit être un labyrinthe de possibles, mais à chaque fois qu'il voit une porte, soit cette porte correspond à ce que veut Black et alors la porte s'ouvre, soit elle ne correspond pas à ce que veut Black et elle ne s'ouvre pas. En réalité, ce n'est pas un labyrinthe, ce n'est pas le chemin des sentiers qui bifurquent, comme disait le jardin des sentiers qui bifurquent, comme disait Borges, c'est un corridor. Ce que Frankfurt en déduit, c'est que Jones a bien fait ce qu'il a fait, il a bien voulu ce qu'il a fait, il est donc responsable de son action. Mais même s'il ne le sait pas, il n'avait pas le pouvoir d'agir autrement. He could not have done otherwise. C'est un compatibilisme. Il a donc agi nécessairement. Mais c'est bien lui qui a agi et lui qui doit assumer son action. CQFD donc, le compatibilisme n'empêche pas la responsabilité selon Frankfurt. Un agent peut être libre sans avoir le pouvoir d'agir autrement. Au passage, l'historien ne peut manquer de s'interroger sur le modèle mis en œuvre. Qui est cet obscur Black qui veut que sa main reste invisible? Comment sait-il d'avance ce que Jones décidera? Par quelle puissance bloque-t-il sa volonté? Ce sont des points que Frankfurt laisse dans l'ombre. D'où vient cet argument? En sautant des intermédiaires, je propose de remonter à une expérience de pensée analogue qu'on trouve chez Locke. Imaginons un homme porté dans une chambre verrouillée sans qu'il en ait conscience. S'il y trouve ce qu'il désire, il n'aura pas de raison de vouloir en sortir. Il y restera volontairement et pourtant, il n'aura pas la liberté d'en sortir. Pour Locke, cette personne fait ce qu'elle veut, elle agit volontairement, mais elle n'a pas la liberté d'agir autrement. Nous sommes encore dans le schéma d'un corridor des possibles où les portes de sortie vers des chemins alternatifs sont même des portes verrouillées, comme le dit explicitement Locke. Logiquement, c'est le même schéma que dans le cas de Francfort. Cet argument n'est pourtant pas le dernier mot de Locke sur la liberté, qui a une position complexe et hésitante que je n'essaierai pas de saisir dans son ensemble. Mais l'expérience de pensée n'implique pas nécessairement que Locke prenne parti ici pour ou contre le compatibilisme. L'argument, je crois, veut seulement démontrer que même si le compatibilisme est vrai, nous pouvons être libres. Nous pouvons faire ce que nous aimons, ce que nous voulons, même si nous n'avons pas de possibilité alternative. Ça ne veut pas dire que Locke endosse positivement le compatibilisme, car nous ne savons pas si, dans notre monde, la porte de la chambre est verrouillée ou déverrouillée. Retenons simplement que Locke soutient un peu plus loin que la volonté est déterminée par l'esprit, mind, en fonction de sa connaissance de l'état du monde. Pour Locke, la volonté est déterminée, mais elle est déterminée par l'esprit, l'esprit humain. Cela veut dire que la causalité du monde est filtrée par notre esprit. On peut dire a priori que notre volonté veut toujours le plus grand bien, mais c'est le bien apparent, celui que nous présente notre entendement et nos sens, parce que nous sommes toujours troublés par notre inquiétude présente, par nos désirs immédiats, et incapables de consentir au plus grand bien éternel. Notre volonté est déterminée à vouloir ce qui résulte de la somme de nos connaissances et de nos désirs. La liberté consiste donc à pondérer entre eux les différents objets désirables. C'est-à-dire que notre liberté est d'abord une liberté de délibérer et que c'est notre délibération qui détermine notre volonté. Locke soutient à la fois une détermination de la volonté par l'intellect et une liberté qui réside dans la capacité que l'intellect a de délibérer. C'est donc une théorie intellectualiste de la liberté. Mais alors, du point de vue de la modalité, l'image de la chambre verrouillée s'impose maintenant. Si la liberté, c'est de vouloir ce que mon intellect, tout bien pesé, me présente comme le meilleur, il n'y a pas d'autre choix libre possible. Je suis dans le monde et je veux ce que mon intellect me présente comme désirable, mais je ne peux pas vouloir autre chose. Je suis dans la chambre en compagnie de ceux que j'aime, mais la porte est verrouillée. Ma liberté est déterminée à un seul monde possible. C'est ce qui caractérise alors une position compatibiliste. Nous agissons librement chaque fois que nous agissons sans contrainte extérieure, mais en fonction de notre motif le plus fort. Selon cette description, la liberté est compatible avec le déterminisme. Même si nous ne pouvons pas agir autrement, nous agissons librement parce que nous faisons ce que nous voulons et que nous ne sommes pas forcés d'agir contre notre gré. Les conséquences théologiques de cette analyse ont troublé Locke, qui était aussi un théologien protestant, lequel a commenté les épîtres de Paul et a rédigé une épître sur la tolérance, ça nous renvoie à l'exposé de Christophe Grélard hier, épître sur la tolérance qui concerne uniquement, je le rappelle, les dénominations protestantes. Il ne s'agit quand même pas de tolérer des catholiques. C'est aussi ce qui a troublé son ami William Molineux qui lui écrit, texte 8. Vous semblez faire en sorte que tous les péchés proviennent de nos intellections ou soient contre la conscience, et pas du tout de la perversion de notre volonté. Pourtant, il semble rude de dire qu'un homme sera damné parce qu'il ne comprend pas mieux qu'il ne le fait. C'est une objection contre toute théorie intellectualiste de la liberté. Elle a été adressée, déjà au Moyen-Âge, à Sigée de Brabant. Si ma liberté dépend de ce que me présente mon intelligence, et si mon intelligence est limitée, ce n'est pas de ma faute. Car l'entendement ne peut pas penser mieux qu'il ne pense. Ça nous renvoie aussi à un texte cité par Christophe Grélard de Guillaume d'Ockham. J'ai noté ce texte. L'ignorance invincible n'est pas coupable puisqu'elle n'est pas au pouvoir de celui qui se trompe. Si la volonté est déterminée par l'intellect, comme le pense Sigée, cela signifie que lorsque l'intellect présente à la volonté un objet désirable, la volonté n'a pas le pouvoir de ne pas se déclencher. Elle n'a pas le pouvoir de vouloir autre chose. La volonté n'est mue à vouloir qu'à partir de l'appréhension d'un objet. Et donc, on ne peut pas, il ne peut pas arriver que la volonté puisse parfois ne pas être mue, ou bien avoir la puissance de n'être pas mue. Précisément, cette définition purement intellectualiste de la liberté, selon laquelle toute la liberté provient non pas de la volonté qui est déterminée par l'intellect, mais du jugement de l'intellect capable de déterminer tel ou tel objet comme bon, cette définition a fait partie des 219 propositions condamnées en 1277. C'est la proposition 131 dans l'édition de Pichet, que je corrige. Il faut lire Mowente au lieu de Manente, puisque c'est la citation du texte que nous avions sous les yeux tout à l'heure de Sigé de Brabant, et chez Sigé de Brabant, c'est Mowente. On voit qu'il y a une correspondance textuelle exacte entre le texte latin de Sigé et la condamnation de 1277. J'ai surligné en gras les termes communs. Un des membres de la commission de censure, Henri de Gand, avait précisément soutenu la thèse contraire de cette position condamnée lors de son Code Libet I. Code Libet I qui a été soutenu à la date de Noël 1276, soit 3 mois avant la condamnation. De même, pour Molineux, objectant contre Locke, si nous sommes responsables du mal, il faut imputer cela à notre volonté, comme l'enseignent Augustin et Calvin, et non pas à une intelligence qui produit infailliblement son effet. Il faut donc que la volonté ait le pouvoir d'agir autrement que selon la détermination de l'intellect. L'argument de Molineux est puissant, Locke le reconnaît. Il avoue s'être laissé conduire par l'analyse jusqu'à une conclusion qu'il a surpris lui-même. Admirons la probité de Locke, qui admet que le cours de sa démonstration l'a conduit à une autre conclusion que ses convictions habituelles. Locke se considère comme incapable de résoudre la difficulté qui se pose à ce moment-là. Comment penser la liberté de l'homme à partir de sa propre analyse. Et puis deuxièmement, ceci c'est la question intrinsèque, et puis deuxièmement c'est la question qui se pose à partir des conséquences, il se considère comme incapable de résoudre le problème de la connexion entre la liberté humaine et la toute-puissance divine. Néanmoins, quant au problème intrinsèque, au problème de l'intellectualisme et du volontarisme, il demande conseil à quelqu'un de très ingénieux, mais arminien de profession, c'est-à-dire de confession. Qui sont les arminiens? Alain en a parlé dans son séminaire sur le sujet de l'action. Les arminiens ou remontrants soutiennent les principaux dogmes du calvinisme, y compris la prédestination, mais ils admettent le libre arbitre, ce qui veut dire que pour eux, la prédestination divine est conditionnelle, elle dépend de la prévision par Dieu de nos choix libres. L'arminien en question s'appelle Jean Leclerc, mais Jean Leclerc avait l'esprit d'escalier car il a attendu 15 ans pour formuler ses propres objections. Il me semble qu'il aurait dû dire, etc., etc. C'est 15 ans après qu'il rédige ses pages. Locke craignait d'être arrivé à une compatibilité entre la liberté et le déterminisme, c'est pourquoi il a consulté Jean Leclerc. Mais pour Leclerc, ce que Locke a décrit, c'est la compatibilité entre la spontanéité et le déterminisme. Il aurait dû dire, etc., qu'il s'agit d'une compatibilité entre que l'action peut être à la fois nécessaire et spontanée, et non pas nécessaire et libre. Mais non pas libre, dit-il. La volonté peut être déterminée invinciblement, nécessairement, par exemple en voulant ce qui lui apparaît comme éminemment désirable, tout en restant spontanée, sans contrainte. Mais dans ce cas, il ne faudrait pas parler de liberté, car la liberté suppose le pouvoir d'agir autrement. Ainsi, Leclerc maintient que la liberté n'est pas compatible avec la nécessité, tandis que la spontanéité peut l'être. Mais qui a le pouvoir de nous amener endormis dans la chambre close? Qui a le pouvoir de verrouiller ou non la porte? Comme dans le cas de Francfort, nous pouvons nous poser la question. Mais ici, comme le prouve le dialogue avec Jean Leclerc, nous devinons qui est ce grand black à la main invisible. Pour un médiéviste, il a précisément la même fonction métaphysique que Dieu, caractérisée par son omniscience et sa toute-puissance. Je ne prétends pas que Francfort et Locke pensent à Dieu, hein, mais qu'ils pensent à un principe qui joue métaphysiquement exactement le même rôle que Dieu. Dieu n'est qu'une figure de ce principe métaphysique. Ah, c'est numéro 3, il y a une erreur. La porte est-elle verrouillée ou non ? Telle est la question qui nous emmène dans une seconde strate du débat, franchement théologique, c'est-à-dire, faut-il donner raison à Calvin ou à Arminius ? Arminius soutient que la liberté est la capacité de faire une chose ou son contraire. L'acte de la créature ne reste pas libre quand il est déterminé à un parti, etc. Donc l'acte est libre s'il n'est pas déterminé à un parti. Nos actes sont donc libres de toute détermination. L'homme est libre de pécher ou de ne pas pécher. Et la prédestination par Dieu n'intervient pas dans cette sphère de liberté. Dieu est libre d'empêcher le péché, mais d'une manière qui n'entre pas en contradiction avec le libre arbitre. Nous avons un pouvoir d'agir autrement et on ne peut pas admettre le compatibilisme. Sur ce point, Arminius soutient le contraire de Calvin. Pour Calvin, ce n'est pas parce qu'il est nécessaire que le péché cesse d'être un péché. Je n'ai pas le pouvoir d'agir autrement, je n'ai pu autrement faire. Et pourtant, je suis responsable de mon action et le péché peut m'être imputé. Calvin soutient donc une position compatibiliste, au moins sur le plan de la responsabilité. Je suis à la fois déterminé et responsable de mes actions. Pour Calvin, dire le contraire, c'est soutenir la position de Pélage. Pour savoir d'où vient le compatibilisme, il nous faut donc remonter encore plus haut. Car la question n'a de sens que dans un certain cadre herméneutique et épistémologique. Celle-ci nous renvoie aux origines de la théologie chrétienne avec le débat entre Augustin et Pélage, qui sont bien sûr cités par Calvin et Arminius. Pélage affirme que nous avons la puissance des deux parties mises en nous par Dieu. Pélage estime que l'homme, quel que soit son péché, possède par nature un libre arbitre, c'est-à-dire une possibilité naturelle de faire le bien ou le mal. C'est une puissance des deux parties contraires, possibilitas utriusque partis. Ainsi, Pélage pense que la volonté est dotée d'un libre arbitre capable des contraires, donc aussi du bien et du mal, comme s'il en était la racine commune. Sans cette faculté des contraires, l'homme ne pourrait pas être considéré comme responsable, ni son action comme louable. Et pour Pélage, cette puissance ambivalente n'empêche pas l'action de la grâce, parce qu'elle vient de la grâce divine, Dieu nous l'a donnée en nous créant, et qu'elle y retourne, parce qu'il couronne notre action libre par sa grâce. On pourrait montrer que cette ambivalence des puissances remonte à Aristote lui-même, puisqu'Aristote définit la puissance rationnelle, dynamis metalogou, comme une puissance des contraires. Je pense à Aristote, Métaphysique, Théta 2 et Théta 5. Augustin, tout au contraire, pense que le bien et le mal n'ont pas la même racine, et que la volonté est la capacité de choisir entre différents biens, mais non pas le mal. C'est la charité qui est en nous la racine de tous les biens, et comme dit saint Paul, c'est la convoitise qui est la racine de tous les maux, citation de 1 Timothée 6,10. Ainsi, même si l'homme est créé bon et libre, en choisissant le mal par son libre arbitre, il abandonne le bien et il perd sa liberté. Augustin a donc réalisé successivement deux percées dans la réflexion sur l'agir humain. La première, contre les manichéens, consistait à dire que l'origine du mal ne peut être que la liberté humaine. C'est la découverte que la volonté possède par essence un libre arbitre. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le désir qui est l'origine du mal, mais c'est le consentement de notre volonté. Celle-ci possède un pouvoir de choisir un libre arbitre. Mais la seconde percée, contre les pélagiens, consiste à dire que cette volonté, qui est par essence une puissance de choisir et d'agir, se trouve être, dans sa réalité concrète, impuissante. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas », dit Paul, Romains 7, 19. Il faut qu'elle reçoive la grâce de Dieu pour faire le bien, car d'elle-même, elle est impuissante à se changer en bien. On trouve ici pour la première fois l'idée de vraie liberté qu'on attribue parfois aux stoïciens, mais sans fondement textuel. On remarque aussi que la liberté, pour Augustin, n'est pas la stricte indépendance, puisqu'elle est une nouvelle forme de servitude, une servitude à l'égard de la justice. La vraie liberté est la dépendance totale envers Dieu. Il s'agit bien d'un compatibilisme. La vraie liberté consiste à obéir à Dieu et à consentir à l'ordre institué par lui. Est-ce à dire que le dernier mot sur le compatibilisme réside dans la théologie? Certes pas, car Augustin lui-même instrumente et réorganise des données qui viennent de Plotin et du stoïcisme, mais je m'en tiendrai au stoïcisme. On peut considérer que la première percée d'Augustin en direction du libre arbitre puise ses éléments dans la théorie stoïcienne de l'assentiment. La cause extérieure n'est qu'une condition sine qua non, mais l'impulsion motrice et le principe de l'élan viennent de l'âme de l'agent, qui donne ensuite d'ailleurs son assentiment à titre de confirmation ou d'infirmation. Tout homme doit répondre de son action. Celle-ci ne se réduit pas à la conjoncture du monde et de ses représentations, mais elle dépend de lui par son assentiment. Pourtant, la responsabilité, ne signifie pas que l'agent est la seule origine du mouvement, elle ne signifie pas davantage que l'action n'a pas de cause extérieure. C'est pourquoi la seconde percée chez Augustin peut être rapprochée de l'idée stoïcienne de destin. La liberté consiste à consentir au meilleur, et comme chez les stoïciens, elle consiste à consentir au destin. Pour les stoïciens, le destin existe, mais il ne se réalise pas sans nous. Et réciproquement, nous ne pouvons que consentir à l'ordre le meilleur, nous ne pouvons pas nous y soustraire. C'est le texte 18. Le destin s'accomplit, mais à travers nous. La clé de ce qui dépend de nous réside bien sûr dans notre volonté, mais ce qui dépend de notre assentiment ne laisse pas d'être nécessaire, car notre assentiment est lui-même déterminé par l'ordre du monde, vu l'état de nos désirs et de nos représentations. Je cite simplement ce texte d'Épictète, bien connu. Comme une balance, notre âme s'inclinera, que tu le veuilles ou non. Donc, le stoïcisme fait reposer le concept de destin sur le consentement de notre liberté. Ce système du monde repose, je crois, sur trois conditions que je n'ai pas le temps d'approfondir. Premièrement, la validité universelle du principe de causalité, laquelle est assumée par le principe « il n'y a pas d'effet sans cause ». Deuxièmement, l'absence d'hétérogénéité des différents systèmes explicatifs, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer les causes en un tout cohérent qu'on appellera le monde, ou Dieu d'ailleurs chez les stoïciens. Troisièmement, l'existence en l'homme d'un principe de décision unique sur lequel cette causalité totale s'exerce. Ces trois conditions sont remplies par le système stoïcien, vous avez les références ici. Chez Augustin, la question du destin n'a pas disparu. Elle a pris pour nom la prédestination. Or, dans prédestination, il y a encore destin. Comme l'enseigne l'Ad Simplicianum, à l'origine, il y a un choix souverain et absolu de Dieu. Par exemple, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü », phrase rude de Romains 9, 13. Ce choix ne repose sur aucune préscience des mérites futurs, selon Augustin. Jacob a été élu sans mérite et Ésaü a été réprouvé sans mérite. Dans le monde réel tel qu'il a été choisi par Dieu, Jacob n'a pas de possibilité autre que la grâce de l'élection et Ésaü que l'abandon à la réprobation. Cependant, un autre mode est possible pour Dieu. Cet autre monde possible n'est pas accessible à la volonté humaine, et pourtant, cet autre monde possible serait lui aussi un monde sans possibilité alternative. C'est Dieu qui pouvait le rendre possible, mais alors il aurait poussé la volonté d'Ésaü à vouloir nécessairement le bien. Ce texte est si extraordinairement pré-leibnitien que Leibniz le cite. La volonté humaine a bien un rôle, mais il reste toujours déterminé par la grâce. L'homme reste soumis au destin, simplement son destin réside dans la volonté de Dieu. Augustin concède finalement, je cite, que « Je dirais que ce qui est destin pour le moins puissant est volonté pour le plus puissant lorsqu'il dépend de son pouvoir. Je mentionne très brièvement, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder, sur le fait qu'une autre conception est possible, celle d'Aristote, qui ne répond pas aux trois principes énoncés par les stoïciens. J'en viens tout de suite à la conclusion méthodologique. Nous avons vu maintenant d'où vient le compatibilisme. Il est temps de réfléchir sur notre méthode. Nous avons rencontré plusieurs problèmes que nous pouvons reprendre maintenant dans l'ordre chronologique. Le problème de la compatibilité de la volonté et de la nécessité dans le stoïcisme. Le problème de la double percée d'Augustin, libre arbitre et prédestination. Le problème de l'intellectualisme et du volontarisme, de Sigé à Henri de Gand. Le problème de l'option entre le déterminisme et le libre arbitre, Calvin et Arminius. Le problème du corridor des possibles, l'absence de possibilités alternatives chez Locke et Frankfurt. Ces problèmes que nous avons séquencés en quatre moments forment en réalité un métaproblème ou une matrice générale qui est en quelque manière capable de reproduire la même question du compatibilisme dans des figures très différentes, théologiques, métaphysiques, analytiques. Cette matrice, c'est en quelque sorte l'ADN du problème que l'on doit maintenant séquencer. Vous avez ici une image de deux séquences d'ADN. Nous pouvons maintenant demander où va le compatibilisme. Il va là où le conduisent ces conditions de possibilité. Si les trois conditions qui l'ont fait naître sont toujours valides, il a un avenir. Les trois conditions qui l'ont fait naître. Voilà. Nous avons vu quelles étaient ces trois conditions. Principe de causalité, intégration possible des séries causales en une totalité, existence d'une volonté, qui est le lieu où s'exerce cette causalité en nous. Mais si une seule de ces conditions n'est pas réunie, alors le compatibilisme n'aurait plus lieu d'être. Autrement dit, le séquençage historique du problème nous rapproche de sa solution. Je vous remercie.